Bonjour à tous. Nous allons commencer ce temps d'écoute de la parole avec le psaume 63, qui est un psaume de désir, qui est un psaume de soif, avec des mots forts dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des mots positifs, il y a aussi des mots négatifs, parce que ce psaume nous invite quand même à nous ouvrir avec tous nos sentiments envers Dieu. Et nous devons l'accepter, nous avons aussi des sentiments négatifs qui s'infiltrent dans notre vie. Donc, pour que Dieu les transforme, bien sûr, donc je vous invite à faire vôtre ces paroles. Psaume de David, quand il était dans le désert de Juda. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire, en contemplant ta force et ta gloire. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célébreront. Ainsi je te bénirai ma vie durant, et à ton nom je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai, et la joie aux lèvres, ma bouche chantera louange. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier, car tu as été mon aide. À l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. Je m'attache à toi de toute mon âme, et ta droite me soutient. Qu'ils aillent à la ruine ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rentrent dans les profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée. Qu'il soit la part des chacals. Et le roi se réjouira de Dieu. Quiconque jure par lui n'aura qu'à s'en louer, car la bouche des menteurs sera close.
Encore une lecture dans le chapitre 11 des Hébreux. On se souvient que dans ce chapitre, c'est le chapitre de la foi des anciens qui nous est rappelé. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans une terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables comme le sable du bord de la mer. Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et situés de loin, et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a en effet préparé une ville.
Et nous lisons dans la première lettre de Pierre au chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que, sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteur, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue.
Je propose de prier. Notre Père Céleste, c'est à toi que nous venons, avec tous nos besoins si variés, pour entendre ta voix. Nous croyons que c'est auprès de toi que nous trouvons réconfort, soutien, courage pour poursuivre la route. Nous invoquons le secours de ton esprit. Parle à nos cœurs, nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à les garder ouvertes dans ce passage en Hébreux 11. Nous allons donc, notre but de ce matin, c'est de trouver courage pour les voyageurs que nous sommes et aussi pour ceux qui restent à la maison. Et nous allons donc regarder dans trois temps, et on va voir qu'il y a une invitation au voyage qui nous est donnée. Il y a des avertissements pour voyageurs, des choses qui font la guerre à l'âme. Et puis, heureusement, il y a aussi des ressourcements disponibles pour chaque voyageur. D'abord, l'invitation au voyage. Nous sommes étrangers et résidents temporaires ou voyageurs. Vous avez remarqué peut-être ces deux paroles dans les deux lectures du Nouveau Testament. Voilà notre appel. Voyageurs sur cette terre. Et de quoi a besoin tout voyageur? Vous allez me dire peut-être des valises, mais je ne pense pas à ça. Tout voyageur a besoin de repos. Nous avons nos traversées de terrains escarpés, les exigences de tous les jours. Pour certains, c'était les examens tout dernièrement. Et donc, chacun a besoin de se détendre, se décompresser. La fatigue fait partie de notre voyage. Donc le repos physique aussi, et heureusement, ce renouvellement d'en haut. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est au bout de ressources, nous rappelle Ésaïe. Alors, quand un voyageur expérimenté planifie son déplacement dans les montagnes, par exemple, il inclut forcément des arrêts, des temps de repos. Sinon, c'est une perte de concentration, épuisement éventuellement. En tout cas, on n'a plus de plaisir en ce qu'on fait à un moment donné. Voilà, donc je vous rappelle que pas besoin de se sentir coupable dans ces temps de transition qui sont, nous l'avons entendu, pas toujours très faciles. Le repos n'est pas le voyage ni le but du voyage, mais c'est une composante du voyage de chacun d'entre nous. Il a toute sa place pour nous permettre de tenir la distance. Pourquoi? Parce que nos cœurs ont mis le cap vers cette cité céleste. Cette cité, cette ville, comme nous l'avons entendu, qui nous attend. Et on a mis le cap là, pourquoi? Parce que nous savons que c'est là finalement, notre maison familiale. C'est là où demeure notre bien-aimé qui nous attend. c'est là où est tenu en réserve notre héritage. Pour nous, disait l'apôtre Paul aux Philippiens, notre cité est dans les cieux, étranger et voyageur sur la terre. Donc, je vous invite au voyage de considérer votre vie comme un voyage. Et ça veut dire, par exemple, quand nous lisons nos Bibles, que ce voyage d'Égypte à la terre promise, quelque part aussi, c'est notre voyage, c'est mon voyage. J'avais beaucoup voyagé jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai passé beaucoup de temps à faire cela, jusqu'au moment où le Seigneur m'a retrouvé, m'a relevé, et je suis entré dans un autre voyage, le voyage de la vie, qui est un mélange d'espoir et de désespoir. Désespoir quand nous tombons et nous pensons, est-ce que le Seigneur peut encore avoir patience avec un type comme moi? C'est un voyage qui est mélange de foi et de doute. Est-ce que vraiment je vais tenir le cap jusqu'à la destination? C'est un voyage physique, oui, mais c'est aussi un voyage spirituel où on découvre que Dieu, comme c'est exprimé, est fidèle dans ses engagements. Où en découvrant qui est ce Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ, on commence à se découvrir soi-même qui en est aussi. Et le terrain propice, ça nous étonne, c'est souvent le désert, le lieu de nos échecs. Mais, on parle d'été, il y a aussi les oasis, les lieux de ressourcement nécessaires. Donc, l'Exode raconte aussi mon histoire de mon Égypte et mon départ vers le pays de la promesse. Je suis en marche sur un terrain inhospitalier, mais je suis en route vers la terre promise, verset 9 de notre chapitre 11 des Hébreux. D'ailleurs, le seul endroit dans la Bible où il s'agit de la terre promise, comme terme. Nous étions là, esclaves, et voilà que je suis délivré. Je suis tout d'un coup libre, parce que j'ai été racheté à grand prix par le sang de l'agneau. J'ai laissé certaines choses derrière moi dans mon Égypte pour pouvoir voyager léger vers ce pays qui m'est proposé. Heureusement, d'autres ont fait le voyage avant moi, et je peux apprendre de leurs expériences. Dans notre chapitre 11, que Charles Abel a dit, mais il y a toute une liste de ces voyageurs. Noé, qui a orienté toute son existence d'après des choses qui n'étaient pas encore visibles. Construire l'arche au milieu d'un terrain désertique. Abraham espérait ce qu'il ne voyait pas. Verset 8. Un pays, une cité que Dieu avait préparée. Il est parti sans carte, sans rien entre les mains pour prouver que ce voyage était quelque peu sensé. Joseph, un peu plus loin dans le même chapitre, il va organiser tout son départ, son enterrement, en vue d'un événement, cet exode, qui aura lieu quelques 400 années après son existence sur terre. Et Moïse, les privilèges de la cour d'Égypte d'un côté, de l'autre, une récompense à venir, dont il espérait, qui était invisible, parce qu'il a entendu l'invitation au voyage. Pas très concret. De quoi, pour les voyageurs, d'avoir des doutes? Comment maintenir le cap quand la majorité opte pour d'autres choix? Bien-aimé, dit Pierre, bien-aimé, je vous exhorte, en tant qu'étranger voyageur, abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Dans ce voyage spirituel, il y a en cours de route des embuscades qui guettaient le peuple de Dieu dans leur sortie d'Égypte, qui nous guettent aujourd'hui en chemin, sur notre chemin. Quels étaient ces désirs charnels, pour reprendre la phrase de Pierre? Ils ont vécu la sortie d'Égypte, ils étaient en chemin, ils ont traversé la mer Rouge. Moïse s'éloigne, on ne sait pas trop où il est parti. Il y a le veau d'or, il se lève pour se divertir, euphémisme pour toutes sortes de déboires. L'été peut être l'occasion vraiment pour lever le pied et fêter, mais des manières qui sont vraiment pas très dignes de notre appel. Ils ont cédé à l'idée, dans leur parcours dans le désert, que la vie était beaucoup mieux avant, beaucoup plus facile, beaucoup plus sympathique, le menu était beaucoup plus riche. Ils ont commencé à murmurer. Il y a un psaume qui parle du bruit constant de mes ennemis, des murmures. Qu'est-ce que Moïse en a entendu? Et puis, dans cette traversée du désert, il y avait les rivalités. Un beau jour, Aaron et Myriam se lèvent et ils disent, mais est-ce que c'est seulement par Moïse que le Seigneur parle? En réalité, ils n'aimaient pas trop sa femme. Et ce qui fait la guerre à l'âme, c'est d'autant plus blessant quand il s'agit du sein de sa famille même. En anglais, on parle de friendly fire, dans une guerre quand on est tiré dessus par ses propres troupes. Aujourd'hui, dans le contexte de l'euro, on parlerait de marquer un but contre son camp. Mais le bouclier de la foi avec lequel on éteint les flèches enflammées de l'adversaire, mais on l'a pas en place quand on est en famille. Et en famille, en vacances, des fois on cède à l'irritation. Paroles blessantes, on a relâché, et puis la langue aussi est relâchée, la guerre à l'âme. on ne veut pas se laisser dévier par celui qui nous veut faire du mal, qui veut nous faire trébucher en chemin. On veut se fortifier dans le Seigneur, par son esprit, nous l'avons entendu. Quels sont les moyens à disposition pour le faire? Il s'agit de quoi pour tenir la distance? Quels sont les ressourcements pour les voyageurs que nous sommes? Dans le psaume 63 qui nous a été lu, il y a un verset de ces versets que j'aime beaucoup dans la Bible qui semble dire tout et son contraire. « Mon âme est attachée à toi, c'est ta droite qui me soutient. » Est-ce que c'est moi qui m'attache au Seigneur ou c'est lui qui a sa main sur moi? On va commencer avec Dieu qui a sa part, qui a passé sa main sur nous. Parce que c'est là où termine notre passage en Hébreux 11. Je vous rappelle ce qu'on a entendu. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Deux choses que nous apprenons de Dieu. Il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Le Dieu, on le sait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, oui, il a eu par moment la faiblesse de passer sa femme comme sa sœur, avec toutes les conséquences que ça a entraîné. Isaac avec ses goûts pour le gibier. Jacob, le tricheur. Noé, qu'est-ce que c'est la première fois, une fois qu'il a fait pousser sa vigne en sortant de l'arche. Sarah, qui ne croyait pas trop à la promesse. Bref, il n'a pas honte d'être appelé le Dieu des gens comme nous. Manifestement, c'est Dieu qui a prévu le salut pour ceux qui osaient croire comme Noé. Le pari fou. C'est Dieu qui désire fonder une famille avec des gens comme nous, qui osent avoir confiance en lui envers et malgré tout. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu serait fier de ces étrangers et voyageurs lors de leur passage sur cette terre? De ceux qui gardent confiance en ses promesses, même s'ils n'ont rien vu ou pas grand-chose? Est-ce que Dieu serait fier de ceux et celles qui ne se laissent pas distraire en route, mais gardent le regard fixé plus loin vers la récompense, comme Moïse ou comme Rahab? Est-ce que ça veut dire que Dieu serait fier de nous? Il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Il a laissé son fils faire le voyage le plus long qui a jamais été entrepris et le plus hasardeux, descendant de la gloire sur la terre, dans le tombeau suite à la croix, pour ensuite, nous le savons, remonter, pour qu'on puisse le connaître et l'appeler mon Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Et la deuxième chose que nous apprenons, il leur a préparé une cité. La cité ici comprend toutes les bénédictions de notre héritage, l'héritage qui nous est réservé dans les cieux, dont on a seulement un tout petit avant-goût ici. Le texte nous dit au verset 10 qu'il y a des architectes parmi nous, disent que Dieu lui-même est l'architecte de cette cité. Le concepteur, qu'est-ce que ça va être magnifique? Il y a des choses très belles sur cette terre, mais ce qui nous attend, on n'a pas les paroles pour le décrire, même les auteurs bibliques. Mais il est non seulement le concepteur, il est aussi le constructeur. Ça va être aux normes suisses. Sans la sous-traitance au noir, comme nous avons entendu tout dernièrement. Il s'en occupe personnellement. C'est comme si l'auteur de cette lettre aux Hébreux nous disait « Voyageurs, prenez courage, fortifiez-vous, tenez ferme, nous sommes attendus par celui qui est fier de vous. » Mais j'ai dit qu'il y a la part de Dieu qui fait tout en réalité, mais il y a un petit part qui nous revient. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Je suis arrivé à l'âge où on a tendance à se répéter. Les explorateurs en Afrique, je ne me rappelle plus exactement de qui il s'agissait, mais ils voulaient aller de l'avant. Peut-être qu'il y avait une certaine concurrence avec d'autres qui explorait en même temps. Et ils avaient trouvé des porteurs parmi les indigènes, et les voilà partis d'un bon pas, le premier jour. Deuxième jour, pareil, et le matin de la troisième journée, ils se lèvent, ils se préparent pour entretenir le même rythme. Seul problème, que les porteurs ne bougent plus. C'est pas tellement qu'ils sont fatigués, manifestement. Alors, on leur demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avancez plus? Allez, on y va. Et semble-t-il qu'ils ont répondu, mais nous restons ici jusqu'à ce que notre âme nous rattrape. C'est une possibilité qui nous est offert pendant cette période d'été. Nous savons tous combien nous sommes pris dans un rythme fou. Et les retraités parmi vous nous diront que ça ne s'améliore pas par la suite. Quand est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour contempler Dieu, comme a dit notre psalmiste, pour méditer sur lui? Mon âme a soif de toi comme dans une terre desséchée. Où sont ces oasis dans notre voyage terrestre? Où est-ce que nous nous arrêtons en traversant ces terrains inhospitaliers pour enfin être rafraîchi? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous prenez avec vous dans vos bagages, si vous partez ou si vous restez? J'ai lu dernièrement, malheureusement en anglais, The Journey, le voyage. Très bienfaisant. Je suis en train de lire l'évangélisation du monde de Jacques Blocher et Jacques Blandinier. Je l'ai déjà dit. Je progresse lentement. Sur vos bibliothèque, la bibliothèque de l'Église, la librairie s'est approchée de nous. Il y a un tas de livres des voyageurs d'autrefois où on peut apprendre beaucoup de choses pour mon voyage. Prenez le temps. Ce serait vite fait de faire les bagages. Dernière minute, je sais. Mais prenez le temps dès maintenant à dire, mais qu'est-ce que je prends avec moi qui va me clouer sur mon siège, mon banc, ma chaise longue, je ne sais pas, et je vais contempler celui qui m'accompagne sur mon voyage. Peut-être un livre de la Bible à choisir, à méditer, à lire et relire. J'avais un ami qui aimait beaucoup Jimi Hendrix. Ça date, hein? Et il disait, mais j'entre dans, c'est un disque à l'époque, maintenant CD, j'entre dedans. Il écoutait, et il était là, présent. Nous pouvons entrer dans des passages de la Bible. Nous pouvons faire comme si on était là avec Jésus et les disciples. Nous plonger dans sa présence. Physiquement épuisé, on a besoin de repos physique. Mais notre âme est assoiffée, desséchée, soupire aussi après le Seigneur comme des mets succulents. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. Je termine en disant que le repos parfait sera quand nous pouvons contempler celui qui nous appelle face à face. Ce serait l'issue de notre voyage. Dans notre parcours sur terre, il y a des oasis qui nous sont proposées, des moments de repos qui sont donnés. Oui, on se ressource physiquement, mais aussi spirituellement, pour nous rappeler que nous sommes connus et aimés de celui qui n'a pas attendu notre arrivée pour nous accompagner, mais qui est entré dans notre vie par son esprit. Mais il nous attend à l'arrivée pour qu'on soit plus jamais séparés. Deux chapitres plus loin dans les Hébreux, c'est rappelé, nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Cet été, laissons nos âmes nous rattraper pour repartir du bon pied. La destination de notre voyage ne saura pas nous décevoir. Notre Père nous attend. Nous prions. Seigneur Jésus, tu es descendu de ta gloire au ciel pour nous inviter à ta suite. Tu as tout accompli pour que nous puissions entrer dans le voyage. Tu as ouvert la porte du royaume. Tu nous avertis des pièges en route. Tu nous en parles pour qu'on ne reste pas atterré, mais qu'on se relève pour repartir. Et tu nous proposes un ressourcement pour nos âmes. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous désirant être nourris de toi, renouvelés en toi. Nous invoquons ta présence, ton esprit, que ces oasis soient nombreux et bienfaisants sur notre parcours sur cette terre. Et Seigneur, nous nous réjouissons de ce jour que nous te verrons tel que tu es, que nous serons accueillis dans l'héritage que tu nous as préparé en ton nom. Amen.